peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Le 8 mai 1945, pour fêter la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe, un défi est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, décident par des manifestations de rappeler leurs revendications. Ces manifestations sont autorisées par les autorités à la condition que seuls les drapeaux français soient agités. À Sétif, un policier tire sur Bouzid Sahal, jeune scout musulman tenant un drapeau de l'Algérie, et le tue, ce qui déclenche plusieurs émeutes et actions meurtrières des manifestants avant que l'armée n'intervienne. Les autorités françaises de l'époque fixent le nombre de tués à 1165. Certains historiens évalueraient le nombre des victimes dans une fourchette allant de 3000 à 8000 victimes. Commémorée chaque année en Algérie, la tentative insurrectionnelle avortée de 1945 a servi de référence et de répétition générale à l'insurrection victorieuse de 1954. Et même de premier acte de la guerre d'Algérie. Et dans ce sens, nous vous diffusons une archive du 8 décembre 2012 qui avait été enregistrée dans le 20e arrondissement de Paris et qui revient sur la constitution du mouvement indépendantiste algérien et sur la guerre d'indépendance. Avec deux anciens membres du FLN, Mohamed Meshati et Mohan Zegag. Ainsi, à vous de vous faire un avis sur l'histoire et la manière on nous l'a retransmis.
Un grand merci à nos amis intervenants, M. Mohamed Meshati et M. Mohand Zegag, pour avoir choisi de présenter leurs livres qui sont leurs histoires de vie et de militantes. Nous souhaitons, en tant qu'association, favoriser la transmission des savoirs, compétences, expériences de la part des aînés et par là, favoriser la mobilisation des jeunes. Nous sommes totalement convaincus que l'histoire, ce n'est pas que celle écrite dans les livres, l'histoire des vainqueurs, le plus souvent. Nous souhaitons, dans le cadre de nos projets, donner le plus grand espace à ces récits de vie. Dans ce cadre, nous avons l'honneur d'accueillir donc Monsieur Meshati et Monsieur Zegag.
Je passe la parole à notre ami Meshati.
Bonjour messieurs, mesdames. Je vais vous parler tout simplement comment nous avions commencé cette guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. C'est une date qui n'est pas venue comme ça. C'est une dame qui a son histoire, qui remonte aux années, les années 20, et même un peu avant. Pour ne pas aller trop loin, il faudrait que j'abrège uniquement pour vous dire, le mouvement national a fait depuis les années 20 jusqu'en 1954. Voilà pour le 1954, c'était justement l'aboutissement de toutes ces préparatifs, de toutes ces pérégrinations. Enfin, l'histoire du mouvement, elle est racontée dans beaucoup d'autres bien avant moi, comme ici présent mon ami Mohamed Harbi, qui dans ses écrits l'a bien raconté. 1945 est une date très importante. Le 8 mai 45. Le 8 mai 45, c'est le jour où le monde entier fêtait la victoire sur le nazisme, je peux dire aussi sur l'impérialisme. Nous, en Algérie, c'était l'inverse. On pensait fêter la libération comme tout le monde. Eh ben, c'est là où le pouvoir colonial a trouvé le moment pour taper un grand coup, pour stopper les espérances de ce peuple qui n'a fait que résister depuis 1830. Ben, c'est le 8 mai 45 qui est à l'origine, c'est cette date qui est à l'origine de la conviction chez nous, chez le peuple algérien, surtout chez le mouvement national, où on a dit plus jamais, maintenant c'est fini, le politique c'est fini, maintenant c'est le passage à l'action, parce que ce pouvoir colonial qui est rentré ici chez nous, qui a occupé l'Algérie par la force, par la répression, il ne peut pas lâcher le morceau, il ne peut pas. Donc, pour nous, il nous faut passer à l'action armée. Le peuple en avait assez. Le peuple ne voulait plus adhérer à la politique. Le peuple nous disait, lorsque vous décidez l'action armée, nous sommes prêts. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à l'un des nôtres, Ben Mehdi, qui a dit « Jetons la révolution dans la rue, elle sera reprise en charge par le peuple ». Et c'était une réalité, il ne l'a pas dite comme ça. Eh bien voilà comment est née l'idée du passage à l'action armée. Elle est née comme ça, pourquoi? Parce que le peuple était prêt, et c'est grâce à ce peuple magnifique qui, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les répressions, malgré tout, il était prêt et il a soutenu, il nous a soutenu, le FLN est né comme ça. Et c'est, le FLN, c'est le peuple tout entier. Et ça a duré 7 ans de guerre terrible, avec des sacrifices énormes. Naturellement, si on fait le parallèle entre tout ça et la situation dans laquelle vit l'Algérie actuellement, eh bien oui, effectivement, on peut dire qu'on est déçu par les résultats actuels. Quand on a démarré, on a démarré d'une façon anormale, d'une façon désorganisée. Le parti politique nationaliste qui a commencé avec l'étoile nord-africaine, PPA, MTAD, tout ça. Il a implosé le pouvoir colonial, alors il était tout heureux de voir ce mouvement qui lui faisait peur imploser. Voilà, on a démarré dans une situation terrible pour nous, mais malgré ça, on était sûr de la victoire finale. C'est à la suite de tant de souffrances, depuis 1830 jusqu'en 1954, ce peuple magnifique qui n'a pas cessé de se soulever, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans le sud, dans le nord, sans ces multiples révoltes, ces multiples insurrections qui se sont produites, qui finalement nous a donné cette conviction, nous militants du mouvement national, que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable. Pourquoi? Parce que le peuple en avait marre. Le peuple était prêt. C'est ce qui nous a poussé, justement, à ce 1er novembre, où on a décidé du déclenchement. Ce petit groupe qu'on a appelé d'abord groupe des 22, puis ensuite on a le CRUIA, Comité Révolutionnaire pour l'Unité et la Croix. Nous étions persuadés que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable. Et après ça, j'ai fait partie de ceux-là qui ont commencé ici en France, le FLN, la création du FLN ici en France. Nous étions 4 personnes il y avait Garras Abderrahman, Lou Mohamed, Ben Salem et moi-même. Voilà, nous avions commencé, on peut dire, les débuts 1955 et jusqu'à mon arrestation fin août 56. Alors là, après mon arrestation, après l'arrestation de notre petit groupe, eh ben, d'autres ont repris, ont continué le combat. Donc, mon ami Zegar, ici présent, Mohamed Zegar, qui va vous, à qui je donne la parole, je remets la parole, et c'est lui qui va vous raconter la suite du combat qui a été mené ici par les militants et l'aboutissement final de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, Mohamed Zegar, merci beaucoup.
Rachid Zegag.
Chacun de vous, chacun de nous a une participation à un moment ou à un autre à cette lutte pour la justice, pour la dignité, pour la libération des peuples. Monsieur Mechati a été arrêté en août 1956. Et moi, j'ai été arrêté un an plus tard, en août 1957. En lisant son livre, je découvre que nous avons eu le même juge d'instruction, le juge Pérez, auquel il consacre deux lignes, où il a fait remarquer sa correction. Et je le rejoins tout à fait, ce juge était l'exception à Paris, à l'époque. Il était de ceux qui appliquaient la loi. Il ne cherchait pas à en rajouter, contrairement à d'autres juges comme Batigne et Monzin, qui eux allaient de la provocation. À l'époque, quand il a été arrêté, au fond, on appartient quasiment à deux générations. C'est-à-dire, moi, j'ai adhéré au FLN en mars 55, et lui arrive en France en mars 55 pour se faire soigner de croix, et il a été accueilli par l'abbé Carteron à Lyon. Il a été libéré en 1961, liberté médicale, et moi, j'ai été libéré après les accords d'Évian en 1962. Je me rappelle au moins deux fois sur l'avenue de Clichy, tout d'un coup, au milieu de la foule, on reçoit par des inspecteurs en civil des coups de revolver dans le ventre, des coups de canon du revolver dans le ventre. C'est-à-dire, il vous donne un coup dans le ventre, parce que là, vous êtes surpris, vous êtes plié en deux. Et c'est après qu'on vous dit police. On ne vous demande pas ni les papiers, ni rien. D'abord, vous recevez le coup pour qu'on vous neutralise. Et à ce moment-là, on vous dit police. Et dans ces cas-là, on ne déposait pas plainte. Quand on voit une affiche interdite aux Arabes et aux chiens dans un grand restaurant en face du cinéma Wepler à la place Clichy à l'époque, on n'allait pas déposer plainte. Si vous rentrez dans un café, le patron ne veut pas vous servir parce que vous avez la tête d'un Arabe ou d'un Noir, vous appelez la police, on est embarqué. On se retrouve le lendemain au sud de Vincennes, lâché dans la nature à 4h, 5h du matin. Donc, on se taisait. Mais en prison, alors je cite là deux ou trois cas, c'est pour ça que j'ai une profonde reconnaissance à quelqu'un qui nous a dit, qui nous a appris comment éviter les rafles. Parce que la rafle, elle a quelque chose de brutal. Et en général, on y échappe rarement. Elle est soudaine. Vous marchez, vous êtes armé, vous avez des tracts, vous avez un journal interdit, tout d'un coup, vous êtes stoppé. Et donc, vous ne vous attendez pas dans n'importe quelle rue. Alors, Rabah Serbah, qui nous a fait des causeries politiques le soir, de manière informelle, qui était un ancien cadre, un ancien militant du PPA, et même de l'étoile nord-africaine, nous a donné une idée. Il nous a dit, je le dis dans le livre, il nous a dit, il faut que vous donniez des rendez-vous le plus souvent, soit dans des cafés devant, à côté des commissariats, soit devant la mairie, sur la place où il y a la mairie. Et alors, évidemment, on lui a dit pourquoi. Ben, il a dit tout simplement, les cafés où il y a les commissariats, en général, les paniers à salade ne débarquent pas. Il faut vraiment qu'ils aient quelqu'un à arrêter, qu'ils l'ont filé, qu'il ait suivi, qu'il ait louche et qu'il ait suspect. Autrement, on ne vient pas dans un café à côté d'un commissariat à 20, 30, 40 mètres arrêter les gens. Et puis, on ne peut pas les arrêter en les brutalisant, parce que ça risque d'être vu. Et devant les mairies, il y a souvent des employés ou alors des syndicalistes. S'ils débarquent, ils vous fouillent corporellement, brutalisés, humiliés. Il peut y avoir des employés de la mairie. Il y a même parfois, disait-il, des églises en face. Donc en général, ce n'est pas là qu'ils font les rafles, parce qu'il y a trop de témoins. Et les témoins peuvent témoigner. Donc ça peut se retourner éventuellement contre la police. Mais si vous êtes arrêté dans un boulevard, sur les Champs-Élysées, avenue de Clichy, les grands boulevards par exemple, là c'est des anonymes qui passent. Et les anonymes ne s'arrêtent pas en général. Ils continuent leur chemin en se disant c'est peut-être des suspects, des terroristes, tout ce qu'on voudra. Bon. Et donc il nous a donné cette consigne et on a donné quelques rendez-vous comme ça à côté des commissariats et à côté soit d'un café à côté de l'église, soit de la mairie. C'est la même chose quand il nous a recommandé pour un refuge ultime. Vous savez, l'organisation n'avait pas tout prévu. Souvent on dit tout était prévu, bien organisé, bien huilé. Non, c'est pas vrai du tout. J'étais dans les groupes de choc, c'est-à-dire l'organisation paramilitaire. On se demandait entre nous si on est poursuivi ou en bas. Parce que retourner sur le lieu de vie, c'est s'exposer, attirer l'attention. Allez où ? Allez dans un hôtel, vous êtes contrôlé immédiatement. Qu'est-ce que vous faites ? Alors il nous a donné une idée, il nous a dit si vous êtes coincé un jour, vous n'avez pas d'autre choix. Essayez de trouver, même dans un immeuble bourgeois, donc pas dans votre quartier, une famille ou une famille juive ou une famille de républicains espagnols. On ouvrait grand les yeux, pourquoi une famille juive, une famille espagnole, de républicains espagnols ? Alors on lui a posé la question, il nous a dit d'abord parce que vous avez plus de chances proportionnellement de tomber sur une famille progressiste qui a enduré, qui a subi les horreurs de la guerre, de la répression. Et cela, en général, il serait plus porté soit à vous aider, ou s'il ne vous aide pas, en principe, une fois que vous avez le dos tourné, il n'ira pas prendre le téléphone pour appeler la police. C'était sa recommandation. Mais tout le problème, c'était comment découvrir une famille juive ou une famille de républicains espagnols. Alors là, il nous a dit, débrouillez-vous. C'est à vous de connaître les noms. Connaître les noms de Lévy, Samson, Caballero. Bon, découvrez, enfin, bougez-vous un peu. Hein. On n'avait pas de recours. Pas du tout. Si vous êtes pourchassé, vous ne pouvez pas retourner sur votre lieu de vie et de travail, vous allez où ? L'organisation n'avait rien prévu. C'est pour vous dire que, je n'ai pas beaucoup insisté peut-être dans ce livre, mais j'ai voulu rendre hommage à ces militants du PPA dont on ne parle pas assez, comme si la génération du FLN était spontanée. Or, heureusement, on avait ces appuis-là. On avait ces sédiments. Mohamed Harbé a écrit un livre extrêmement important aux origines du FLN. Eh bien, on comprend très bien d'où vient le FLN. Quelles sont ses sources? Quelle est sa trajectoire? Quelles étaient ses contradictions? J'étais un activiste. Je n'étais pas un intellectuel. Hein. Je fais des études. Je me suis arrêté au certificat d'études. J'ai fait des études un peu plus tard. Donc je découvrais les choses au fur et à mesure. Il y avait un fort sentiment de fraternité dans la lutte. Vraiment, on se soutenait mutuellement. Pour le FLN, moi je peux estimer qu'il y a eu en tout et pour tout quelques 10 000 prisonniers. Je voudrais dire un mot sur les adhésions au FLN, parce que là aussi beaucoup d'hypothèses ont été avancées dans l'émigration. Les adhésions au FLN se faisaient de manière individuelle. Moi, personnellement, j'ai adhéré de manière individuelle à cause de mon histoire familiale. J'étais à la recherche de l'indépendance déjà dès l'adolescence, pour des raisons familiales et affectives. La lutte pour l'indépendance de l'Algérie est arrivée. Pour moi, c'était le paradis, parce que enfin, j'allais donner toute ma mesure pour l'indépendance globale, l'indépendance du pays, l'indépendance de la patrie. Mais attention, dans l'émigration, tout le monde n'adhérait pas de manière individuelle. Parfois, il y a ce que notre ami Harbi appellerait une adhésion segmentaire. C'est des émigrés, un groupe d'émigrés qui vivent, par exemple, dans un café-restaurant à Gennevilliers, qui décident d'envoyer quelqu'un en Algérie, en reconnaissance, pour découvrir qui se bat sur le terrain, dans les maquis, l'ALN, le FLN, pour être sûr, parce que vous saviez qu'il y avait des contradictions, une controverse avec le MNA, qui aussi prétendait conduire la lutte. Alors, quand cet envoyé dans le village revient, il apporte en quelque sorte, il dit, non, c'est la LN et le FLN qui se bat, c'est tout le groupe du village, tout ce qui appartenait au village, à la région ou au doigt, qui basculait dans le FLN. Et ça, les adhésions n'étaient plus individuelles, c'était 15, 20, 25 qui d'un seul coup basculaient dans le FLN. Et je crois que c'est pourquoi, à partir de 1956 et 57, il y avait une lutte acharnée avec le MNA, certes, pour contrôler certains bastions, mais aussi parce que la lutte dans les maquis, l'ALN et le FLN se sont suffisamment implantés pour que de là-bas parviennent des messages sur la légitimité du FLN et de lui seul, puisque c'est lui qui se bat. Et c'est comme ça que, comment dirais-je, des groupes entiers, d'autres diront des grappes entières de travailleurs émigrés, basculaient vers le FLN. Et ça a permis au FLN d'aller vite, de devenir prépondérant à partir de 56-57 et de devenir quasiment hégémonique à partir de 57-58. Et cet aspect de l'adhésion groupée et non pas seulement individuelle a son importance. Elle a son importance d'autant plus qu'elle se passe dans l'immigration où il y avait énormément de militants qui venaient du milieu ouvrier. Il y avait une expérience des luttes syndicales et sociales qui, eux, venaient sur des bases individuelles, faisaient un choix. Et d'autre part, il y avait les adhésions qui se faisaient par les anciennes structures et les anciens militants du MTLD. Je dois dire que souvent, on parle du groupe des 22, du 1er novembre 54, du FLN, de la naissance du FLN, de la conduite de la lutte de libération nationale par le FLN, mais le FLN, ce n'était pas une génération spontanée. Moi, je l'ai vérifié, j'avais à l'époque 16 ans, 18 ans. J'ai trouvé des anciens militants du PPA, eux, dans le groupe des 22, ils étaient du PPA et du MTLD. Ils ne sont pas un jour, la tête leur a tourné, ils se sont dit, tiens, on va passer à la lutte armée, on va créer le FLN. Et je crois qu'il est important de dire que le FLN, le déclenchement du 1er novembre, est une résultante de tout le mouvement national, à travers ses contradictions, à travers les comportements de ses dirigeants, bien sûr, et à travers ses limites. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a d'autres aspects, mais on en reparlera tout à l'heure.
Pierre Braun.
Ah oui, Pierre.
Si je veux intervenir en étant le plus bref possible pour mentir la réputation des avocats, c'est que je veux rendre hommage aux centaines de confrères qui avaient marqué et illustré la qualité de la défense en Algérie et pour les Algériens en France. On me pose la question, quelle était votre origine politique? Je réponds, de toute obédience, en excluant naturellement les extrémistes de droite et les fascistes. J'ai été en effet formé par la résistance. Lorsque, tout jeune avocat, en décembre 1947, Pierre Stig m'a demandé si j'accepterais de faire partie de ce collectif qui défendrait les patriotes algériens, ma réponse a été immédiatement positive. Mais je ne connaissais rien à la situation coloniale.
Thank you.
jusqu'à 13h30, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes comme tous les jours du lundi au vendredi sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et nous poursuivons l'écoute de cette conférence débat qui avait lieu dans le 20e arrondissement de Paris le 8 décembre 2012. On était en compagnie de deux anciens membres du FLN, Mohamed Mechati et Mohan Zegag.
Bon, d'abord, je voulais confirmer cette histoire qui paraît un peu étonnante quand un dirigeant du FLN conseille aux militants de dire si vous ne savez pas où aller loger, allez essayer de trouver des familles juives ou des familles de républicains espagnols, enfin, ou d'espagnols descendants de la tradition républicaine. Je me souviens moi-même, je suis d'une famille juive et ma mère, après la fameuse manifestation et la répression brutale du 17 octobre 61, habitait rue Tlemcen, et dans ce HLM, il y avait des familles algériennes, il y avait les premières familles, on peut dire parmi les premières familles qui étaient là, les femmes, les enfants, et les maris, beaucoup de maris avaient été kidnappés et avaient disparu. Donc il y avait une inquiétude terrible, et ma mère, qui n'était pas une militante, qui était une femme du peuple toute simple, mais qui était elle-même, avec ses enfants, survivantes des rafles de la guerre, donc ça confirme tout à fait ce qui a été dit, elle l'a trouvé tout à fait naturel quand elle a appris ce drame et qu'elle a entendu les femmes algériennes mortes d'inquiétude, ne voyant pas revenir leur mari ou leur fils, etc., de les aider. Elle a organisé tout bêtement une petite collecte de nourriture, de vêtements, etc., dans le HLM où on habitait tous ensemble, toutes les familles. Voilà. Ça, donc je tenais à le confirmer, c'était extrêmement clair et c'est juste. Je dirais que malheureusement, si 50 ans après, plus de 50 ans après, si on allait voir une famille juive, ça serait beaucoup moins simple à cause des événements que vous connaissez en Palestine et ailleurs. Mais à cette époque, c'était tout à fait vrai. La mémoire de ce qui s'était passé pendant la guerre et les crimes racistes, elle avait marqué des familles. Et donc, on pouvait compter sur ces familles pour montrer de la solidarité par rapport aux familles algériennes. Ça, j'en étais témoin. Maintenant, je voulais poser une question. J'aimerais quand même, pour l'assistance, vous avez à plusieurs reprises mentionné PPA et MTLD, dire simplement deux mots, nous rappeler qu'est-ce que c'était que ce Parti populaire algérien et le MTLD. Et donc, alors, je profite pour poser quand même une question. Moi, quand j'étais gosse, adolescent, au début de la guerre d'Algérie, on avait été quand même très frappé un jour dans l'impasse où j'habitais, dans le 20e arrondissement, de retrouver un Algérien pratiquement mort de blessures. Et là, je voulais poser la question de la violence qu'il y a eu, en particulier, apparemment, dans les affrontements entre FLN et MNA. Donc la question, c'est l'éternelle question, dans un mouvement de résistance qui connaît lui-même la violence du colonisateur et en France de la police, etc., comment se fait-il que le FLN n'ait pas trouvé d'autres solutions que la liquidation physique d'opposants MNA? Comment est-ce que... Parce que moi, je me souviens qu'étant gosse, et l'effet que ça avait sur les familles françaises, c'est des sauvages, c'est des, hein, pour s'entretuer comme ça, pour des raisons politiques, les gens ne comprenaient pas. Donc ma question, c'est comment expliquer ce degré de violence quand même entre Algériens pour la lutte pour le pouvoir, pour la direction, bien sûr, du mouvement politique qui était essentiel pour mener la lutte, y compris ici en métropole. Voilà, donc je m'en tiens à cette question.
Mohamed Harbi.
Ce qui me semble important, si on veut comprendre, par exemple, l'origine des antagonismes entre le FLN et le MNA, il faut d'abord fondamentalement tenir compte des traits, des caractéristiques de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays où les rapports sociaux sont extrêmement personnalisés. C'est un pays où il n'y a pas, dans les mouvements politiques, une différenciation entre le politique et le religieux. C'est fondamental. C'est un pays où le principe autoritaire est à l'honneur dans toutes les classes de la société, y compris chez les intellectuels. Et ces facteurs vont jouer et dans la formation des partis politiques et dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Par exemple, on ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé pendant la guerre entre le FLN et le MNA si on ne retourne pas à la scission du MTLD, du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Et si on n'essaye pas de voir quelles sont les causes fondamentales de cette scission. Alors, la question qui était posée depuis 1947-48, c'était la voie de la révolution. Comment sortir du système colonial? Comment relever le défi de la colonisation? Et alors, là, il y a eu différentes tendances. Il y a des groupes qui estimaient que, en allant vers une lutte légale, on pouvait obtenir des résultats. Seulement, ils ne condamnaient pas en principe une autre voie. Ils ne la condamnaient pas. Et il y a ceux qui estimaient qu'il n'y avait qu'une voie, c'était celle de la lutte armée. Et donc, comme la situation était bloquée en Algérie, le problème s'est reposé dans les années 50. Et il s'est reposé dans des conditions particulières. D'abord, l'organisation paramilitaire que le MTLD avait mis en place a été démantelée par la police. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Marocains et les Tunisiens que les Algériens accusaient de réformisme étaient en train de passer à la lutte armée. Alors, ça a créé une situation très extrêmement explosive à l'intérieur de ce mouvement qu'est le MTLD. Mais les luttes se passaient essentiellement au sommet. Elles concernaient une trentaine de personnes. Le reste, le parti n'avait pas la vie d'un parti démocratique. Ces militants n'étaient pas associés au grand débat. Et surtout, le problème de la lutte armée était devenu une spécialité de quelques personnes, simplement. Et de personnes dont, si vous voulez, la perspective ou l'expérience historique qui les attirait le plus, c'était l'expérience de l'Irlande. Et l'expérience de l'Irlande, c'est une expérience intéressante, mais ce n'est pas une expérience de type révolutionnaire comme on peut le penser, parce qu'elle est fondée essentiellement sur le terrorisme, etc., sur la séparation communautaire, un refus des luttes sociales, des luttes de classe, etc. Donc, c'était vraiment pas l'exemple qui pouvait permettre aux Algériens de trouver une voie. Et donc, Messali, qui avait beaucoup plus une capacité sociale qu'une capacité technique, qui était là au milieu d'intellectuels qui étaient de bons rhéteurs, hein, mais qui bloquaient l'avancée du mouvement vers une lutte plus radicale, a fini par demander d'organiser des manifestations, etc., etc. Et on sait que c'est à l'occasion de ces manifestations, quand on découvre aujourd'hui les archives françaises, les archives de la police ou les archives des autorités, on se rend compte que ces manifestations, c'était un début de révolution. Que les gens descendaient dans les rues par milliers, que dans les petits villages, hein, les débats se posaient dans les mosquées, hein, particulièrement au Khroub, à Ain Mlila, etc. Donc, il y avait cette tournée avait créé une situation explosive et a durci des rapports intérieurs au MTLD. Et petit à petit, je passe là, sur un certain nombre d'événements et on en est arrivé à un certain moment après un congrès pendant lequel Messali a avalisé la ligne qui était celle du comité central mais qui n'était pas celle de la majorité du parti. Mais petit à petit, il a essayé d'aller vers la base et de la soulever contre la direction. Et il a eu gain de cause. Incontestablement, quand il a soulevé la question, il a été suivi. Je dirais ainsi, Mohamed, il était peut-être dans l'Algérois ou dans l'Oranie. Tous les gens qui ont fondé le FLN sont passés du côté de Messali dans une première étape. Il s'agisse... Pardon ?
C'était quoi les deux lignes entre le comité central et la
base ? Bref, le comité central voulait passer par la formation d'une union nationale. Messali était hostile à cette ligne. Il dit qu'on va faire une unité avec des gens qui vont nous bloquer, qui ne veulent aller nulle part. Voilà. Et donc, quand il y a eu la scission, à ce moment-là, les gens qui étaient pour une ligne radicale sur le plan de la lutte armée, ceux-là, ils étaient au départ pour Messali. Et puis, ils se sont ravisés quand un certain nombre d'hommes dans Boudiaf sont entrés en action, d'abord en rapport avec le comité central qui était anti-messaliste, puis à partir de la réunion des 22, ils se sont un peu détachés du comité central. Dans le même temps, chez les messalistes, il y a des renversements qui se produisent au mois d'août et qui vont être à l'origine de luttes sanglantes. Ces renversements se produisent en Kabylie. Krim a été investi comme responsable des menaces en Kabylie. Or, quelques mois après avoir obtenu des armes de Messali, des messalistes, c'est Medrana qui lui a remis les armes, après avoir obtenu ces armes, il a changé de camp et il s'est allié au groupe des 22. Et donc, si vous voulez parler de la crise de FLN et MENA, elle a ses racines dans la scission du MTLD et dans le caractère autoritaire du parti. Et Messali, quand il a organisé le congrès, il avait 90% du parti derrière lui. Mais quand même, il n'a pas accepté une participation normale de ses adversaires. Et donc, si tu veux, et les gens du CRUA, il les a traités de groupuscules, de petits pachas, aux ordres du comité central. Et quand on sait la susceptibilité d'un certain nombre d'hommes dans le cours de l'action, on sait ce qui peut arriver par la suite. Et on peut dire que lorsqu'il y a eu le 1er novembre, là, on a des témoignages plus que sérieux. Personnellement, je les ai suivis depuis 1954. Et je rappelle à Sé Mohamed que lorsqu'il était venu à Skikda avec Didouche, je vous ai rencontré à l'entrée du Faubourg. Et j'ai revu après Didouche, plus tard. Alors Didouche a eu la responsabilité du Constantinois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par former les groupes. Quand ils sont passés à l'action le 1er novembre, ils ont essayé d'entraîner les messalistes avec eux. Et ils ont discuté avec le responsable de Skikda, qui s'appelle Mghlaoui, qui d'ailleurs a été arrêté et s'est évadé de la prison de Constantine avec Ben Boulaïd. Alors, ce Mghlaoui a dit, nous ne pouvons pas prendre de décision. Il faut qu'on en réfère à la direction centrale. Ils allaient donc avoir une discussion entre eux. Or, avant même de donner une réponse, les messalistes ont commencé l'action armée à Skikda. Le premier attentat à Skikda, qui date du 25 décembre, est un attentat messaliste, ce n'est pas un attentat FLN. Et donc, si vous voulez, l'accusation qui a été portée contre « ils ne veulent pas la révolution », ça n'est pas sérieux. On a beaucoup de faits qui militent contre ce type d'approche. Et progressivement, les messalistes, après cet attentat, ils vont être décapités. Et ce qui prouve que ce qui intéressait la base du MTLD, c'était l'action armée, c'est que tous ceux qui étaient messalistes, c'est-à-dire plus de 90% des 2000 militants qu'il y avait à Skikda sont passés du côté FLN. Il n'y avait plus de messalistes. Dans le nord constantinois, la question a été réglée. Par contre, en Kabylie, ils sont passés à l'action au nom de Messali. Il faut insister sur cette chose, sur crime est passé au nom de Messali. Et petit à petit, il a dû se découvrir. Et au moment où il se découvre, et aux négociations par l'intermédiaire d'Abben, de Mohamed Negro, etc., ont été échouées, à ce moment-là, la bagarre a commencé sur le plan armé, chacun estimant qu'il était le plus légitime. Et donc, ça a gagné, ça a fait tâche dans toute l'Algérie. Et alors, on peut dire que sur le plan politique, on ne peut pas incriminer seulement Messali. Il y a les responsabilités des facteurs de personnalité qui ont joué avec crime, avec Boudiaf. Boudiaf qui a entraîné derrière lui tous ceux qui étaient, tous les fondateurs du FLN qui étaient pour Messali. Krim qui a joué le double jeu et qui, par la suite, a entraîné une partie de la Kabylie, dans la bagarre. Et la question de la bagarre en Kabylie a joué d'une manière fondamentale sur la Fédération de France, qui est une immigration qui était en majorité kabyle. Et ce sont les gens qui étaient derrière Krim qui, petit à petit, après le travail pionnier de Si Mohamed, d'un tas de gens, de nous tous à partir de 55-56, etc., ont formé la Fédération de France. Et maintenant, le problème est très difficile à discuter pour une raison très simple. Le MTLD, c'était un parti de 20 000 militants. Les gens qui ont été entraînés dans la lutte armée étaient des dizaines de milliers. Ils sont entrés dans la bagarre sous l'égide du FLN. Et ils ont eu face à eux le MNA. Et ils considèrent que le MNA, c'est un parti de traître. Et effectivement, la police a fait ce qu'elle pouvait. C'est-à-dire pousser les Algériens à se combattre les uns les autres. Ils ont réussi. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réussi dans cette voie. Et il faut voir le problème de la police d'une manière générale. Parce qu'au FLN aussi, j'étais à la Fédération de France, à la direction. À un moment donné, le sud, une partie du sud, c'est-à-dire la région de Marseille et de Lyon, après les arrestations d'un certain nombre de dirigeants, c'était la DST qui nommait les responsables. Et un étranger est là pour dire, ils ont infiltré l'organisation, ils ont essayé d'infiltrer aussi sur les frontières, etc. Et c'est une histoire très compliquée qu'il ne faut pas trop embrouiller. Il ne faut plus... Il faut qu'on reprenne toute cette histoire parce que au cours de cette histoire sont tombées l'élite du mouvement nationaliste, les élites du mouvement nationaliste. Et cela explique beaucoup de choses dans ce qu'est devenue la destinée du mouvement nationaliste algérien.
Rachid Zegag.
Ça mérite discussion, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est l'avant FLN, et qu'est-ce qui nous a mené vers cette situation de règlement de compte entre le FLN et le MNA. Il décrit certains aspects, et puis, à un moment donné, pourquoi ça a basculé. Il dit très bien. Moi, dans le livre, j'ai utilisé le terme de primo-adhérent. Pourquoi j'ai utilisé le terme de primo-adhérent ? C'est pas courant en politique. C'était pour montrer que ceux qui ont rejoint le FLN à partir de 55 et 56 et 57 n'étaient pas au MTLD, n'étaient pas au PPA. Il vient de dire, Mohamed, qu'ils étaient finalement plus nombreux. Mais bien sûr, 20 000 militants du MTLD ou du PPA nous sont sortis, l'organisation spéciale, les dirigeants du FLN, ce n'est rien quand il y a 200 000 adhérents ou 160 000 uniquement, rien que dans l'immigration, en ajoutant des centaines de milliers en Algérie. Évidemment, ils étaient noyés. Et ceux qui étaient à la tête du FLN, ils imprimaient à ce moment-là la direction qu'ils voulaient. Et ils voulaient être les chefs. De nouveaux chefs historiques sont apparus à la place de Messali. C'est vrai que c'est tout un débat qui n'est pas fini.
Plusieurs reprises, vous mentionnez PPA et MTLD, simplement deux mots. On va nous rappeler qu'est-ce que c'était que ce parti populaire algérien et le MTLD. Donc la question, c'est l'éternelle question, dans un mouvement de résistance qui connaît lui-même la violence du colonisateur et en France de la police, etc., comment se fait-il que le FLN n'ait pas trouvé d'autres solutions que la liquidation publique d'opposants au MLA ?
Alors la question du PPA, du MTLD, oui, c'est l'ossature du mouvement national politique, patriotique algérien, qui est d'ailleurs avec l'étoile nord-africaine est né en France. D'abord, il y a eu ce que l'autre jour le Chaté avait appelé le mouvement des Mutaled, les Algériens la liberté, et qui a été ensuite relayé par l'étoile nord-africaine et Messali qui est nommé après à la direction de l'étoile nord-africaine jusqu'en 1936. Et après, il y a eu le PPA, le Parti du peuple algérien, qui a été créé et qui a été dissous après 1945. Et le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, a été créé. Donc c'est la même trajectoire, je dirais c'est la même essence. C'est le mouvement national, en dehors de l'UDMA de faire un tabac, des oulémas de côté à connotation religieuse, enfin démarche religieuse, et puis des communistes, du BCR, du Parti communiste algérien. Donc le mouvement national a continué dans cette trajectoire jusqu'à au moment où le FLN déclenche la lutte de libération du 1er novembre, et le MLA est créé, je crois, dès le 3 décembre. Pour le MLA, à mon avis, le FLN, dès qu'il a été créé, il est passé à l'action. Il a imposé que les ralliements se fassent individuellement, d'abord, à l'égard de tous les partis existants. Il y a eu une option pour la lutte armée, et cette option pour la lutte armée n'envisageait pas des compromis avec d'autres forces politiques en tant que telles. Et je pense que l'évolution des partis politiques, la pratique des compromis ou des alliances, elle naît aussi à travers toute une évolution des mouvements politiques d'un pays, de sa société civile, de son degré, de son niveau de développement social et économique. On le voit bien dans les pays arabes aujourd'hui, souvent ils se présentent divisés, ils ne savent pas faire d'alliances, ils ne savent pas faire des compromis. Je ne veux pas ouvrir le débat ni sur l'Égypte ni sur la Tunisie, mais les dernières élections législatives en Algérie, il y a eu 44 partis qui ont présenté des candidats. Comment voulez-vous qu'ils gagnent 44 partis, même si certains étaient extrêmement faibles ou plus ou moins financés par le pouvoir, hein. Mais ils n'arrivent pas à se dire qu'on ne peut pas avoir raison sur tout et tout seul, on ne peut pas être porteur de la vérité, toute la vérité seul. Il faut tenir compte de ce qui existe, de leurs propositions, si elles sont proches des nôtres. Et je crois que cette pratique politique, à mon avis, on ne l'avait pas à l'époque. Je ne peux pas oublier aussi qu'il y avait la chape de plomb du colonialisme. S'il y avait des classes moyennes qui étaient à l'époque développées, s'il y avait une société civile, si on permettait aux partis politiques d'évoluer, de se développer, on aurait peut-être une autre pratique. Mais on ne refait pas d'histoire. Bon, c'était comme ça. Donc le FLN voulait absolument conduire et assumer toute la direction
de la lutte armée, de la lutte politique. Messali est une personnalité historique éminente. Il ne voulait pas, c'est ce qu'on nous disait, se ranger derrière d'autres dirigeants. C'est lui le grand leader, enfin le grand Zaïm. Donc, elle n'a pas voulu, en tout cas pendant les débuts, rejoindre le FLN. Et le FLN n'envisageait pas de place pour d'autres forces politiques qui puissent coexister à côté de lui à partir du moment où le processus de lutte armée était déclenché. Alors, dans l'émigration, ça s'est réglé sous cette forme, parce que, au fond, la population a franchi en Algérie. Hein. La population, elle est maquille, la force des armes aussi. Alors, d'abord ici en France, au départ, le MNA était prépondérant. Il avait hérité de structure aussi du MTLD. Donc le FLN, il fallait qu'il reprenne le dessus, le contrôle de l'immigration. Et ça ne s'est fait qu'à travers une confrontation, un affrontement avec évidemment le MNA. Et ça, à mon avis, ça explique la violence qu'il y a eu de part et d'autre. Parce qu'on parle, évidemment, le FLN avait, à partir d'un certain moment, gagné sur le plan des forces, du rapport de force, il avait gagné et donc il a imposé ses vues. Je ne veux pas parler de la période où le MNA s'est réfugié dans certains bastions du Nord où d'autres étaient manipulés par les commissaires, etc. Ça, c'est les résidus, c'est la queue, si je veux dire, de la comète, hein, du problème. Mais au début, sur le plan politique, je pense que c'est cette volonté du FLN de conduire et d'assurer la direction au point où on considérait que le MNA était des traîtres. Moi, je les ai trouvés en prison. Ils étaient des prisonniers comme nous, jusqu'au moment où ils ont été emmenés ailleurs. En réalité, c'était des militants politiques aussi. Et certains étaient tout à fait sincères. Je pense que ces questions-là étaient tranchées à l'époque au niveau des dirigeants et nos dirigeants. Vous savez, nous avons une culture qui pousse au Zaïma, c'est-à-dire quand quelqu'un est au pouvoir, il ne veut plus le quitter.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.